Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle aventure littéraire pour C'est deux ailes pour Délivrez-vous. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui, je l'ai adoré. J'ai beaucoup aimé son histoire, ses personnages, l'époque certes est moins gaie puisque l'action se situe au début, au début de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est l'histoire de deux petites filles, de deux adolescentes. Les personnages sont vivants, attachants et puis surtout nous allons partir à la recherche d'un portrait disparu. Alors, j'espère que nous n'allons pas partir à la recherche de mon invitée d'aujourd'hui, qu'elle est bien là et qu'elle nous attend. Bonjour Guillemette de Laborie.
Bonjour, je suis bien là.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour C'est deux ailes pour votre dernier ouvrage, Le portrait disparu, édité chez Kalman Levy. On en parlait hors antenne, hein, vous êtes l'auteur de plusieurs romans, vous êtes essayiste et vous nous avez ravis avec cette magnifique histoire du portrait disparu. Alors on va parler un petit peu de vous. Qui est Guillemette de Laborie?
Alors écoutez, c'est une journaliste pendant 30 ans de sa vie, oui, qui a la chance, une fois cette période de vie comment terminée, de se livrer à l'écriture au long cours. C'est-à-dire, oui, que toute ma vie, j'ai essayé de transmettre des choses les plus justes, les plus précises possibles, dans le moins de signes possibles, le moins de places possibles. Oui. Et aujourd'hui, avec le roman, avec la fiction, ça me permet de déployer, de raconter ce qui me paraît important sous une autre forme. Voilà. Mm-hmm.
Alors, je disais, votre roman, votre histoire, parce qu'on a plutôt envie de parler histoire, c'est un roman certes, mais une histoire basée sur des faits qui peuvent être historiques, parce que beaucoup de familles ont connu cet état de fait. L'action se débute en 1938. Nous avons notre héroïne Apolline qui vit dans un élégant appartement parisien, et sa vie est un petit peu comme ça, un peu morne, un peu triste, et va débarquer dans son immeuble une famille d'émigrés hongrois, réfugiés. Et là, toute sa vie va changer parce qu'elle va s'y attacher. Elle va trouver cette famille assez intéressante et notamment l'aînée des enfants qui est Dorothée, et va se lier entre ces deux enfants, ces deux adolescentes. Elles ont, je crois, 12 ans, une amitié très forte, quelque chose de très beau. Et je me suis dit, à cette période, à cette époque, c'était sans doute d'autant plus précieux, cette amitié d'adolescente.
Oui, bien sûr. Ce que j'ai voulu montrer, c'est effectivement la rencontre entre deux jeunes filles, pas encore tout à fait adolescentes à l'époque, parce qu'à,
oui,
12 ans, à l'époque,
oui,
on était encore enfants,
des petites filles, oui,
elles étaient encore dans un monde enfantin où justement on ne leur disait pas grand-chose de ce qui était en train de se passer.
Oui.
Elles étaient ballottées, enfin, en tout cas l'une des deux a été ballottée déjà depuis un certain temps,
oui,
puisqu'elle arrivait de la Hongrie à travers l'Autriche, etc. Et on imagine bien ce que ça représentait, alors que justement ça recommence à être difficile pour la même
oui,
région de l'Europe.
Oui.
Mais ces deux jeunes petites filles, futures jeunes filles, se retrouvent au-delà de toutes leurs différences et même de la langue d'origine.
Oui. Alors, dans cette famille, il y a également un jeune garçon, un peu plus âgé, qui peint, et, qui est assez fasciné par ces deux petites filles et qui veut faire un tableau pour le père de Dorothée, qui est l'autre jeune fille de la famille qui s'est installée dans l'immeuble d'Apolline. Il va peindre ces jeunes filles.
Voilà.
Mmh. Oui, je vous écoute.
C'est le départ d'une histoire.
Oui.
Est évidemment totalement fausse, entre guillemets, mais qui voudrait raconter l'espèce de emballement artistique que la France a connu avant-guerre, avec l'arrivée de beaucoup d'artistes venus de l'Est de l'Europe en particulier, et montrer aussi comment les sensibilités peuvent être éveillées par les couleurs, par les formes, par la recherche de modes d'expression différents,
oui,
et c'est un peu ce qui arrive à l'une de mes jeunes filles.
Mmh, tout à fait. Et puis, le jeune homme qui l'est peint est assez fasciné aussi par cette rencontre, par cette osmose qu'il y a aussi entre les deux fillettes.
Oui, là, vous êtes en train de rentrer déjà, d'arriver à une période un peu plus...
Oui, oui.
C'est vrai que pour, à ce ce moment-là, personne ne s'en rend compte, mais c'est lui, en tout cas, trouve quelque chose que les autres ne voient pas entre ces deux jeunes filles.
Tout à fait. Alors, c'est sûr que. On va tourner autour de l'histoire parce qu'il faut laisser le soin aux auditrices, auditeurs de découvrir, hein, bien évidemment. Alors, les affres de la vie et du moment vont faire que on va leur demander, enfin, on va tenter de les protéger, de les envoyer à Montauban, dans une famille, pour fuir un petit peu cette guerre qui arrive. Et là, en fait, va débuter toute l'histoire, c'est-à-dire que d'un côté va y avoir le tableau qui va disparaître, les jeunes filles vont partir à Montauban, et bien des années plus tard, la petite fille d'Apolline, lors d'une vente aux enchères, va retomber sur ce tableau.
Et retracer l'histoire qu'elle recouvre,
voilà.
Qui est une infinitésimale par rapport à la grande histoire, mais
oui.
qui a été celle de beaucoup de familles à cette époque-là. Je me suis beaucoup appuyée, en règle générale, j'essaye que mes romans soient le plus juste possible et s'appuient de la manière la plus,
de faire réel,
la plus précise sur la grande histoire, tout en essayant de lui donner l'émotion de la petite histoire.
Mmh.
Et on sait aujourd'hui mieux ce qui s'est passé autour de l'Exode, qui les a concernés, mais qui a concerné beaucoup de monde. Et je suis partie non pas de livres d'histoire, mais de récits.
Mmh.
Et j'ai choisi Montauban pour deux raisons. D'abord parce que il s'y est passé beaucoup de choses pendant la guerre, parce que c'était un nœud important
de l'occupation allemande, entre autres.
L'occupation allemande est arrivée, c'était la zone libre au début de la guerre.
Mmh.
Mais par contre, se sont retrouvés là, c'est très intéressant.
Mmh.
Beaucoup de gens ont raconté, gens célèbres, ont raconté leur guerre, la période de la guerre à Montauban. Par exemple, Philippe Labreau a été jeune homme et a raconté. Lui, il était arrivé avec ses parents, non pas réfugié, mais pareil, un peu avant la guerre. Son père a voulu mettre à l'abri sa famille.
Oui.
Et parce qu'il était ce qu'il était, il a servi de relais pour beaucoup de gens qui allaient vers l'Espagne, qui n'étaient pas très, très loin au sud. Il y a aussi Daniel Cohn-Bendit, qui était enfant, plus jeune, et qui a passé plusieurs années
dans
le centre de Montauban, Edith Piaf. Et il se trouve que ça rejoint une histoire personnelle, parce que ma mère habitait Montauban, et à la fin de sa vie, elle a raconté ce qu'elle avait perçu, pas grand-chose, mais toute la partie quotidienne y était, et ça m'a permis d'accrocher à la vie quotidienne
votre propre récit,
la grande
histoire. Alors, au travers de ce tableau, on s'aperçoit qu'il y avait tout un tas de secrets qu'on va découvrir au fur et à mesure, mais aussi l'histoire d'une famille, de la petite famille, la grande famille, les joies, les peines et ses secrets. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette histoire, au travers des lignes, c'est qu'il y avait beaucoup aussi d'humilité, de réminiscence, la réalité de la vie, mais décrite avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'humilité. C'est ce que j'ai ressenti dans votre écriture, c'est-à-dire vous déliez les choses, vous parlez des personnages très attachants. On sent que vous y êtes aussi très très attaché, mais en même temps, au travers de la difficulté de ce moment de la vie, de cette époque, vous y mettez aussi beaucoup de joie et beaucoup de couleurs.
C'est ce que j'ai découvert. Je vous remercie de me créditer du fait que j'ai réussi à faire passer ce que j'ai découvert moi à travers tous ces témoignages, c'est-à-dire que la vie, en tout cas dans la zone libre, alors que l'Europe était à feu et à sang, chacun essayait de vivre le plus justement possible. Enfin, chacun.
Oui.
Beaucoup de gens ont essayé de s'aider les uns les autres, de travailler beaucoup pour remplacer ceux qui étaient partis, de faire grandir les enfants.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai été très touchée par toute cette vie qui continue.
Oui.
On sait que on ne connaît que la partie officielle, mais il y a eu tout le reste aussi.
Il y a beaucoup de résilience finalement aussi.
Absolument.
Beaucoup, beaucoup de résilience, oui. Continuer à vivre malgré tout, malgré le pire, malgré l'horreur, malgré l'ineffable, en fait, aussi, c'est continuer. Alors, moi, dans ce portrait aussi, qui est bien existant, qui est bien vivant, j'ai vu une forme de parabole, c'est-à-dire à la recherche de quelque chose, à la recherche de soi, à la recherche d'une histoire. Et quand on cherche une histoire, on est aussi un peu à la recherche de soi. Alors, ça fait un peu psychologie de comptoir, mais c'est un petit peu ce que j'en ai
C'est tout à fait
ressorti
vrai.
aussi.
C'est tout à fait vrai. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez dire, mais comme j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation, c'était ma spécialité
Oui.
en tant que journaliste, j'ai été très frappée par tout ce que l'éducation des filles au XXe siècle dans un certain milieu pouvait à la fois apporter comme routine, comme point d'accroche pour continuer à vivre, et puis aussi comme enfermement, on peut le
Oui.
dire. Et voilà, c'est toute une. J'ai essayé de mettre en scène, en valeur, toute une éducation sans la juger, mais en montrant ses points forts et aussi ses grandes failles.
Oui. Ce qui est important aussi au travers des personnages, mais après c'est ma lecture à moi et mon ressenti, donc ça c'est très personnel à chacun et chacune bien sûr, à chacune et chacun de l'interpréter. Certes, les grandes personnes, dirais-je, sont importantes dans le roman, mais les deux adolescentes, bien sûr, prennent le dessus. Elles leur volent un peu la vedette parce que bah, ce sont elles les vedettes et ce portrait, bien sûr, ça va être aussi leur histoire, mais elles deviennent adultes par la force très vite, et elles prennent la place aussi des adultes.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Il y a ces deux jeunes filles et puis il y a la très jeune résistante qui,
Oui.
la petite bonne qui elle-même, qui arrive en ville après avoir travaillé beaucoup
Oui.
dans la ferme de ses parents
Oui.
et qui là aussi prend avec beaucoup de courage la mesure de la situation et fait ce qu'elle peut. Peut-être en parallèlement, peut-être en prolongement,
Oui.
la petite fille d'Apolline
Oui.
qui, à
Alicia.
travers l'histoire de sa
Alicia.
grand-mère,
C'est Alicia, je crois.
Olivia,
Olivia. Olivia, c'est Olivia. Oui, je
oui,
savais plus où c'est
oui,
Olivia. C'est ça.
à travers ce que sa grand-mère a vécu,
Oui.
va, comme vous dites aussi, comprendre mieux qui elle est,
Oui.
quelles sont ses forces et s'appuyer dessus pour devenir adulte.
Oui, parce qu'il y a aussi tous ces secrets de famille au travers de ce tableau. C'est aussi, on lui disait son histoire à elle, son histoire familiale. Mais ce qui est assez aussi poignant, c'est qu'on bascule dans un monde puis dans un autre. C'est-à-dire que ce tableau la ramène à une époque et elle est dans la sienne. Donc c'est deux mondes qui vont s'entrechoquer, se rencontrer aussi. C'est ça aussi qui est très émouvant.
Oui, et se rencontrer aussi, c'est vrai, parce que à travers les générations, à travers les modes de vie, parce que il y a une petite Américaine
Oui.
grandie au XXIe siècle et une petite Française
Française
grandie
grandit au
dans un
XXe
monde qui
siècle.
était encore très proche du XIXe, et pourtant leurs sensibilités se rejoignent et les forces de leur structure, leur manière d'être au monde peuvent se rapprocher et s'aider mutuellement.
Oui, c'est vrai. Eh bien, j'espère que ce qui va nous aider mutuellement, c'est cette petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
Amor.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous avec Guillemet de Laborie pour son dernier roman, Le portrait disparu, aux éditions Calman Lévy. Alors, on le disait, ce portrait disparu, ça va être la course, enfin la quête, hein, la quête de l'histoire, mais on plonge aussi dans des faits très réels, c'est-à-dire ces nombreuses familles qui ont été dépouillées de tout et dont les héritiers, à la fin de la guerre ou bien plus tard, et encore aujourd'hui, il y a toujours ces chercheurs de biens familiaux qui ont été cooptés par l'armée allemande, par les nazis, et aujourd'hui encore, c'est d'actualité. Donc ça nous plonge dans un passé, dans une réalité qui est toujours là.
Et oui, vous avez raison de dire, et encore aujourd'hui, puisque encore il y a quelques semaines, il y a des tableaux qui ont été retrouvés, enfin, en tout cas rendus, après avoir été retrouvés à leur propriétaire. Et c'est vrai que c'est une histoire absolument passionnante, cette épopée des œuvres d'art autour des musées nationaux, des œuvres d'art de l'État français, l'État français c'était le terme de Vichy à l'époque, mais les trésors français ont été mis à l'abri d'abord dans les châteaux de la Loire, et puis ensuite au fur et à mesure que les nazis occupaient la France, descendus un peu plus bas jusqu'à Montauban justement, puis encore après dans la vallée de la Dordogne jusqu'au Lot. Et ce qui est fascinant, c'est l'énergie et l'amour que les conservateurs et les gardiens, tous ceux qui ont emmené ces tableaux, ont manifesté pour les protéger. Ils sont d'ailleurs tous revenus à leur place après la guerre, additionnés d'un certain nombre de d'œuvres qui n'étaient pas publiques, mais qui ont été sauvées ainsi.
Ce qui est quand même aussi incroyable au travers de la petite fille d'Apolline et au travers des témoignages, parce que du coup après j'ai été voir certains témoignages de familles qui avaient retrouvé des biens ou de familles qui les cherchaient encore, c'est cet attachement à l'histoire, à la famille, aux racines, recherché malgré tout, parce que c'est pas l'objet qui compte, c'est ce qu'il raconte.
C'est la transmission, le rapport entre une personne et un œuvre d'art est quelque chose d'extrêmement. C'est une conversation de sensibilité, et c'est peut-être l'essentiel qui permet de survivre.
Alors le jeune peintre qui peint les jeunes filles m'a fait penser à une période que j'aime beaucoup et dont j'ai lu pas mal de choses là-dessus. C'est l'époque des grands peintres du fin 19e, début 20e, à Montparnasse. Il y avait les Renoir, les Degas, etc. Ou les peintres un peu plus contemporains, les pointillistes. Et il m'a fait penser à eux dans ce détail, dans ce côté très juvénile, très très cool. Le très, comment dirais-je, un peu bohème. Il m'a fait penser à tous ces peintres du Montparnasse de l'époque.
Vous me faites plaisir parce qu'effectivement, j'espère qu'en lisant, on comprend quel type de peinture Anton et les autres cherchent et comment ils cherchent à dire quelque chose d'eux-mêmes, de leur vie, de leur époque, à travers du non figuratif quelquefois.
Et c'est vrai que je voyais tout à fait, je me le suis imaginé, blond, les cheveux longs, enfin vous voyez, c'était une image, la chemise un petit peu, le pinceau en travers, un peu de peinture. On se fait une image assez, alors que les deux jeunes filles, elles m'ont fait penser un petit peu à du Bilitis dans le bon sens, vous savez, ce côté un petit peu flou, un peu artistique, un peu romantique, vous voyez, voilà, un petit peu comme ça.
Tout à fait, et je rajouterais bien aussi que tout cela porte dans leur visage et dans leur manière d'être des cicatrices, des traces de ce qu'ils ont vécu, et que je voulais le dire aussi, on voit bien à quel point ce qui s'est passé dans l'enfance reste, et dans la jeunesse, reste pour toujours dans la personnalité.
Bien sûr, on est marqué à vie de tout ça, de toute façon. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que la petite fille d'Apolline est marquée par cela aussi, dans ses gènes.
Absolument,
dans son...
sans le savoir.
Oui, sans le savoir. C'est ce qu'on appelle l'épigénie. L'épigénique.
Absolument.
Oui.
Absolument. Et on le rencontre tellement souvent dans la vraie vie que j'ai voulu, sans appuyer dessus, parce que c'est un des sujets, mais c'est pas le sujet central. C'est tellement important et ça vaut tellement la peine de chercher ce qui est derrière, ce qu'elle fait, elle.
C'est vrai. C'est vrai. Alors, vous parliez tout à l'heure, et c'était une parenthèse, mais elle est bien réelle, vous disiez de ces Hongrois qui ont émigré parce qu'à l'époque, bien, il fallait fuir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de cette partie du monde. Et oui, comme c'est malheureux, mais c'est comme ça. Comment est arrivée la genèse de ce livre? Qu'est-ce qui vous a porté vers cette histoire? Alors, vous disiez, vous avez vous-même votre vécu à ce niveau-là, les témoignages que vous avez lus, c'est tout cela qui vous a porté, qui a guidé votre main et votre plume?
Alors, c'est une vieille histoire. vous avez mentionné tout à l'heure un de mes précédents livres, qui s'appelle La dernière héritière.
Oui.
Et déjà, c'était en germe, c'est-à-dire que j'ai fait dans ce livre-là une page sur les œuvres d'art qui ont aidé certains à vivre et qui ont été protégées à l'inverse par leur propriétaire ou leur gardien. Mmh. Et en écrivant cette page, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire à raconter. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un peu la suite logique. On ne peut pas dire que les deux livres soient liés, pas du tout.
Oui, oui.
Mais l'un engendre l'autre, d'une part. Et puis d'autre part, pour la petite histoire, ce livre, il a été écrit pendant le confinement,
oui.
À des confinements. Et rappelez-vous, à une époque, il y a eu un moment où on avait le droit d'aller à 100 km autour de chez soi.
Oui.
J'étais donc en Dordogne, en Périgord.
Quelle chance,
et à 100
j'adore
kilomètres,
cette région.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Montauban,
oui.
Et il y a la vallée de la Dordogne, jusqu'au Lot.
Et oui.
Donc, ce qui m'a permis d'aller sur les lieux mêmes, me promener autant que
que vous vouliez.
Voulais.
Oui.
Et d'être très bien reçue aussi, parce que c'était une période où on manquait un petit peu de contacts sociaux.
Tout à fait, oui.
Et voilà, j'ai retrouvé un certain nombre de lieux que je raconte dans le livre, toujours un petit peu à la limite de la fiction, c'est-à-dire que ce n'est pas les lieux mêmes, c'est des lieux qui sont largement inspirés.
Bien sûr. Pour certains, on les reconnaît.
Peut-être bien que vous les reconnaissez.
Un petit peu. On dit rien. On va laisser le soin au lecteur de le faire. Alors j'imagine que vous êtes un écrivain prolixe. Vous avez toujours plein d'imagination, plein d'idées. Vous avez d'autres projets, je suppose, déjà dans les tiroirs ou en passe d'être faits, fermés, écrits.
Bien sûr. La vie ne serait pas aussi belle s'il n'y avait pas toutes ces histoires à imaginer.
C'est clair.
Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur une histoire de sorcière.
Oula.
Les sorcières d'aujourd'hui, et les liens qu'elles entretiennent avec les sorcières à travers toutes les époques.
Oui.
J'ai été frappée là où je suis, en Dordogne, quand je parle de sorcière, tout le monde connaît une sorcière.
Ah oui.
Et finalement, une sorcière, c'est quelqu'un qui voit l'invisible, qui devine l'invisible, et on est tous toutes un petit peu sorciers, un petit peu sorcières.
Oui. Ah bon? Bah pourquoi pas?
Je suis sûre que vous avez un côté sorcière. La preuve, je l'ai vue.
Bon, bah écoutez, vous me direz dans quel cadre vous l'avez remarqué. pour en revenir à ce portrait disparu. Est-ce que aussi, durant, parce que je suppose que vous avez cherché, vous avez vu, vous avez regardé des témoignages, ces deux jeunes filles se sont imposées à vous d'une manière naturelle? Est-ce que c'était comme une évidence?
Alors, ce qui était une évidence, parce que j'avais été très frappée par ça, c'est de montrer à quel point les enfants, jusqu'aux jeunes gens, avaient une vision partielle de ce qui se passait et étaient obligés de se débrouiller avec une vision très partielle. J'avais entendu beaucoup les enfants de cette époque-là dire « on ne savait pas, on savait bien qu'il se passait des choses, mais on a vu passer un tel, il est reparti la nuit d'après. » vous avez vu aussi, j'ai beaucoup raconté ce qui s'est passé à Montauban même, dans les institutions religieuses, qui étaient remplies d'enfants. Mm-hmm. Donc à la fois, ces enfants soit étaient là parce que c'était leurs parents habitaient là, soit étaient arrivés là parce qu'ils avaient été protégés.
Oui.
Et ça doit être très angoissant de ne pas comprendre bien ce qui se passe. Et j'ai essayé de... ça, c'était une des choses que j'ai vraiment eu envie de montrer.
Oui.
Et ça passait, par de jeunes filles.
Oui.
J'ai essayé de pousser un petit peu aussi la piste des jeunes gens qui aussi oscillaient entre différentes options de volonté de défendre leur pays.
Oui.
Mais bon, c'est vrai que les jeunes filles se sont imposées.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on peut se dire que les adultes étaient tellement préoccupés, tellement occupés par ce qui se passait, qu'il fallait éduquer les enfants du mieux possible, les protéger, et que le reste, bien, ils apprendraient les choses au fur et à mesure. Je pense que l'esprit des adultes était tellement préoccupés, occupés par tout ça, qu'ils avaient peut-être ils ne trouvaient peut-être pas les mots simplement pour expliquer aux enfants.
Bien sûr. Et de toute façon, quand on savait des choses, il ne fallait pas les dire. Donc, les enfants cachés pendant à Montauban, il y en a eu beaucoup.
Oui.
On sait qu'il y en a eu beaucoup, mais il y a très peu de traces parce qu'il ne fallait pas en parler, surtout pas.
Bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, parce que il fallait pas en parler parce qu'ils pouvaient être de toute façon en danger. Cette famille hongroise, on sous-entendre aussi, ou on peut le comprendre, que c'est une famille juive.
Oui, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus, mais je ne voulais pas que ce soit le centre du sujet.
Vous avez bien
donc
fait.
Je n'ai fait que l'évoquer. Si vous l'avez senti, très bien.
Oui.
Voilà, mais Dorothée Dota est une personnalité en elle-même, en dehors de sa d'autant plus que c'est un petit peu dit, il y a un candélabre,
à cette branche,
il y a des petits éléments qui le montrent,
qui nous donnent des signes,
je voulais pas qu'elle disparaisse derrière sa judéité.
Non, mais vous avez, on le sent parce qu'en plus en connaissant un peu l'histoire, on peut s'en douter, et puis comme vous dites, il y a des petits signes, mais ça ne fait pas le centre de la chose. C'est quelque chose sur lequel on passe très vite, voilà, on passe très vite parce que les personnages sont très prenants et très forts. En tout cas, c'est un roman que moi j'ai beaucoup apprécié, qui donne beaucoup d'espoir, beaucoup de joie, et puis aussi qui nous plonge dans l'histoire, et puis qu'il ne faut jamais oublier que l'histoire, c'est comme la mode, ça peut être un éternel recommencement, et qu'il ne faut jamais que les erreurs ou les horreurs du passé, malheureusement, l'homme n'est pas infaillible. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir pour ce portrait disparu aux éditions Kalman-Lévy. J'espère vous retrouver une prochaine fois pour un nouveau roman pour ces sorcières. Alors voilà. En tout cas, vous en êtes une puisque vous nous ensorcelez avec tous ces beaux récits, tous ces personnages. Merci Guillemette de Laborie. Merci.
Merci à vous.
Merci. Au revoir. Quant à nous, nous nous retrouvons pour une autre émission. J'essaierai de vous ensorceler avec une autre belle aventure littéraire. Merci. À très bientôt. Prenez soin de vous.